17h14, Marie-France, t'as envie de reparler de ce sujet. Moi, je veux juste te rajouter avant que Greenpeace a réagi et accueille positivement la nomination d'un nouveau ministre de l'Environnement. C'est écrit, et je cite, « Le fait que M. Legault corrige le tir rapidement est selon nous un signe positif que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques sont des priorités pour ce gouvernement qui reconnaît maintenant qu'il y a urgence climatique. » Voilà pour la réaction.
Ben, je trouve que Greenpeace a raison. Je trouve que d'agir aussi rapidement de la part de M. Legault et d'admettre son erreur, ce qu'il a fait, et on l'entendait très bien dans le clip que Jonathan vient de nous présenter, admettre son erreur de réagir stratégiquement en début de mandat aussi vite.
C'est rare, hein?
C'est rare et ça fait preuve d'une belle humilité et ça fait preuve aussi que l'environnement compte pour la CAQ plutôt que de laisser une ministre qui était, disons, pas complètement dans son champ de compétences.
Ben, qui avait des classes à faire,
qui avait
disons donc comme ça.
Vraiment des classes à faire. Ça vient donner un signe important concernant l'environnement. Monsieur Legault vient de gagner des points verts, mais vient de perdre un point rose, par contre.
Ça, c'est effectivement.
Donc, il a choisi entre la parité et l'environnement. Il a choisi l'environnement. C'est pas innocent. C'est vraiment, je trouve qu'il réagit vite et bien.
Oui, c'est comme une façon aussi de montrer aux gens que c'est ça, il ne tolérera pas les choses. C'est-à-dire, il veut que ça marche.
Il veut que ça marche. Exactement. Et il profite. Ben, parlons justement de ce qui attend le gouvernement de François Legault, parce que
grosse année,
parce qu'il y a eu une mini session avant Noël où il a distribué quelques cartes, il a montré ses couleurs. Mais la première vraie session parlementaire commence le 5 février et les dossiers qui seront abordés en priorité vont donner des signes importants de ce que va être ce gouvernement-là, son orientation. On dit beaucoup qu'en février-mars, donc très tôt au début de la session, le projet de loi pour interdire les signes religieux chez les personnes en autorité, incluant chez les enseignants, va être déposé, va être discuté en tout cas. C'est un enjeu évidemment polarisant, un dossier toujours chaud qui va certainement marquer les repères identitaires du gouvernement de la CAQ. Alors, jusqu'où sera-t-il ouvert à une clause grand-père? Il en avait parlé en novembre, c'est-à-dire des droits acquis pour les employés actuels, entre autres dans l'enseignement. Jusqu'où tiendra-t-il son bout sur la question des enseignants? C'est ce qui est le plus débattu, évidemment. Jusqu'où va-t-il se battre pour ça? Est-ce que c'est l'endroit où il pourrait laisser aller? Quoi qu'il a une bonne partie de la population derrière lui. Donc, ce sera intéressant à voir. Et puis, on sait que c'est un homme pragmatique et il vient de nous en donner une preuve il y a une heure à peine. C'est un homme pragmatique, François Legault. Ce n'est pas un idéologue, donc ce n'est pas le dossier avec lequel il est le plus à l'aise. Il veut régler ça rapidement et il ne devra ni céder aux démagogues populistes de gauche ni à celles de la droite qui pourraient vouloir intervenir. Donc, dossier que j'ai très hâte de voir comment il va se dépatouiller avec ça.
J'aime ton verbe dépatouiller parce que moi, j'allais te dire, ça va prendre pas mal de doigtés parce que c'est tellement, tellement complexe.
Et c'est un dossier inachevé depuis au moins 10 ans, depuis au moins Bouchard-Taylor, ce dossier-là.
Parce que personne n'ose s'y attaquer pour aller jusqu'au bout de la chose. C'est-à-dire, il y en a qui ont bien essayé, mais c'était...
Mais disons que le mandat qu'a donné la population à la CAQ vient... le baquer d'une certaine manière, vient le soutenir.
Oui.
Donc, c'est peut-être la meilleure fenêtre d'opportunité pour faire passer ça,
en effet.
Si on veut que ça passe.
Oui.
Mais très hâte de voir comment il va se démêler avec tout ça.
J'allais te dire, Marie-France, j'ai hâte de voir aussi sur la réforme du mode de scrutin, parce que Justin Trudeau lui a reculé.
Exactement, il a reculé alors qu'il était engagé très fort. Et c'est un engagement, celui de la réforme du mode de scrutin, pris conjointement avec le PQ et Québec solidaire avant les élections. Et est-ce que Québec veut, est-ce que Québec pourra réussir? Les partis au pouvoir, on le sait, aiment beaucoup le système qui les a portés au pouvoir, justement. Et quand on se mettra à expliquer, quand les spécialistes se mettront à expliquer et le gouvernement se mettra à expliquer ce qu'est la proportionnelle, on se rendra certainement compte que ce n'est pas nécessairement la panacée espérée.
L'Italie le sait.
Israël le sait, beaucoup de pays le savent. Et ça dépend quelle forme de proportionnel on utilise, parce que c'est vraiment extrêmement, la panoplie de possibilités est énorme. Et est-ce que le Parti libéral donnera son aval? Est-ce que le Parti libéral voudrait avoir l'odieux de faire échouer un souhait qui est largement porté, en tout cas par trois partis? Quelque part, ça m'étonnerait, Marie-Claude, qu'on aille voter sous un système proportionnel en 2022.
Quelque chose me dit que tu as bien raison. Ouais. Chantier en éducation, ça, ça fait partie des énormes promesses de la CAQ.
Jean-François Roberge va être une vedette de la session qui vient. François Legault avait promis un redressement national en éducation. Donc, on parlera de l'abolition annoncée des commissions et des élections scolaires. Une consultation qui est déjà lancée sur la gratuité scolaire et sur les frais qui pourraient être assumés par les parents. Il y a le projet controversé des maternelles 4 ans d'ici 2022, l'ajout de 5 heures par semaine de présence au secondaire, les rénovations d'écoles, tout ce chantier qui avait été lancé autour du projet Lab École avec Ricardo Pierre Larivière, oui. Et l'architecte Pierre Thibault. Donc, on verra ce qu'adviendra de tout ça, mais on va parler beaucoup d'éducation. Et je terminerai, il y a évidemment plein d'autres dossiers qui vont être abordés, mais je terminerai en te disant sur ce sujet que la CAQ dispose d'une belle éclaircie, en ce sens qu'il y a deux partis, le PLQ et le PQ, qui sont en reconstruction, donc qui n'auront pas la pédale à fond pour intervenir sur tous les dossiers tout le temps. Et la lune de miel avec la population n'est pas encore entachée. Disons que la CAQ est en phase avec les aspirations, avec les inquiétudes de la majorité de la population. Donc, à voir vraiment comment M. Legault a réagi aujourd'hui à propos du ministère de l'Environnement, j'ai l'impression qu'il va écouter, mais qu'il aura les coudées assez franches.
Oui, en plus, oui. Puis, pour terminer sur ce sujet, ce que je trouve fascinant, c'est que M. Legault avait pris sérieusement et solidement la défense de Marie-Chantal Chassé.
Tellement.
Juste avant Noël, ou enfin autour d'eux, là, quand il avait dit non, mais il faut lui laisser la chance, puis c'est une ingénieure, c'est une femme d'affaires. En tout cas, bref, comme tu disais tout à l'heure.
Geste rare,
humilité et. Ça démontre quelqu'un qui c'est ça. Il veut que ça bouge, il veut que ça aille dans le bon sens. Bon, là-dessus, il y aura peut-être pas les partis d'opposition seront peut-être pas à leur meilleur, comme tu disais, mais par contre, les journalistes vont être là pour surveiller. Puis justement, on va parler des journalistes pour la dernière partie de ta chronique. Quatre ans de l'attentat de Charlie Hebdo.
Et souviens-toi, tout le monde disait je suis Charlie suite aux attentats, et ça voulait dire je soutiens les journalistes, je soutiens la liberté d'expression. Et on peut se demander 4 ans après. Où en est ce sentiment de solidarité avec les journalistes? Ou aussi, où en est la crédibilité des journalistes depuis 4 ans? Des interrogations qui existaient avant, mais qu'on remarque beaucoup plus depuis 4 ans, à cause justement de l'attentat contre des journalistes, contre un organe de presse, mais avec la présence de Donald Trump également, qui a fait beaucoup pour une rhétorique anti-journaliste. C'est une rhétorique qui est vraiment décomplexée, et ça, c'est nouveau. Il y a eu les fake news, une appellation qui recoupe à la fois l'information de provenance douteuse, et aussi ce qui ne plaît pas au gouvernement établi. Il y a tout le populisme, aussi bien gouvernemental de toute allégeance que les mouvements comme les Gilets jaunes en France, les radios dites poubelles ici, qui s'attaquent à la crédibilité des médias. Et ça, c'est une des constituantes du populisme. Sur les réseaux sociaux qu'on appelle eux-mêmes les nouveaux médias, il y a des attaques constantes sur ce qu'on appelle, et tu as certainement dû voir, et les auditeurs aussi, le hashtag Merdia pour parler des médias. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attaques contre le travail des journalistes et contre le journalisme lui-même.
Ça fait peur, Marie-France.
Alors que dans les faits, la presse perd des moyens financiers. Je ne parle pas du journal La Presse, mais la presse en général. La presse écrite cherche à tout prix à survivre. C'est difficile. Le journalisme classique est mis à mal par un mélange de le commentariat, ce que je fais, qui occupe une place prépondérante, le contenu publicitaire qui se mêle à ça. Les journalistes, dans les faits, sont intimidés, attaqués, parfois menacés de mort. En Arabie Saoudite, on ne reviendra pas sur l'histoire de Khashoggi, mais emprisonnés, torturés, tués. Ici, la profession est au top des plus discrédités et les journalistes, souvent, n'aident pas leur cause. Se discréditent en tournant parfois les coins ronds, en étant paresseux, moutonniers, manque de rigueur, comportement d'élite hautaine. Les médias doivent rendre des comptes, doivent être critiqués, doivent admettre leurs erreurs, mais les amalgames sont aussi irresponsables. Alors, je n'ai pas de réponse, mais beaucoup de questions pour 2019. Comment pratiquer le journalisme à l'ère du populisme? C'est vraiment un thème qui va être très important.
C'est pas évident, puis je terminerai, Marie-France, en te disant qu'on est vraiment loin de l'époque de Walter Cronkite, le grand Walter Cronkite à qui on disait qu'on avait plus confiance en lui qu'au président américain.
Oh, c'est vraiment fini, hein?
On est loin de ça.
On est très loin de ça. À demain, Marie-Claude.
Merci beaucoup. À demain, Marie-France.